La vigne aux fruits d'or, par Albert Payson Terune. Sidi Ben Hassan était assis vers l'heure d'Azim à la porte de la cité. Son cœur était en paix, car il était injuste. Soudain, levant les yeux, il aperçut la peste qui passait le seuil. « Oh, servante d'Allah, combien de vies viens-tu faucher ?» demanda Sidi Ben Hassan. Son cœur ne tremblait pas, car les justes ne connaissent pas la crainte. La peste répondit « J'en prendrai 300 ». Et elle entra dans la ville où bientôt retentirent les chants de mort. Sidi Ben Hassan était assis vers l'heure d'Azim à la porte de la cité. Ses vêtements étaient déchirés, et sur sa blanche tête se voyaient encore des cendres grises. Ses proches les plus chers avaient été emportés. Il leva les yeux et soudain aperçut la peste qui repassait le seuil. Et Sidi Ben Hassan se lève, crache son mépris, honnit la peste au nom d'Allah Tout-Puissant et crie « Trompeuse !» Tu disais ne vouloir que 300 vies et 10 000 sont morts. La peste s'arrêta un instant pour répondre. La servante d'Allah ne peut mentir. J'ai pris 300 vies. Ma sœur jumelle, la peur, a tué le reste. Le conteur cessa son murmure, ponctué de gestes, et se dressa du sol, où il était accroupi à l'oriental, dans ce petit café mort. Faisant le tour du demi-cercle des auditeurs impassibles, il reçut de quelques-uns un métallique de cuivre. D'autres firent un signe négatif de l'index, mais le Hadj Imbarak donna une piastre syrienne par vulgaire ostentation de générosité. Le Hadj avait goûté le compte. Il se considérait le seul de ces fumeurs de narguilés ou buveurs de café qui eût saisi son sens caché. Il comprenait que quelques hommes peuvent être terrifiés par une maladie qui ne les touche même pas. Oui, le Hadj sentait que c'était bien cela. Ces flâneurs de café damasque ne pouvaient comprendre ce qui était sous l'enveloppe de la fable. Ils étaient de naissance trop obscure. En chemin vers sa demeure, dans le quartier de Médan, il retournait dans sa mémoire le conte de Sidi Ben Hassan et de la peste. Fier d'avoir su aussi aisément tirer la morale qui fait le fond de tous les contes de l'Orient, il ne put s'empêcher de sourire à cette étrange idée que des milliers d'hommes fussent effrayés à mort par la seule présence de la peste parmi eux. Imbarak, le Hadj, savait bien que c'était impossible. Ce qui, pour le Syrien émoulu d'une université, rendait le conte encore plus amusant. La peste, chose bien improbable. Maintenant que les médecins pharyngés et les esprits modernes introduisaient en Syrie leurs absurdes fétiches de bains et de désinfectants, le Hadj en était heureux au fond, bien qu'en principe, il haïssa les innovations des djaours, comme tout bon musulman. Il avait même frémi 3 jours à l'idée qu'un chemin de fer ferrigué allait être construit de Jaffa à Jérusalem. Tout de même, la peste était une chose du passé. Son grand-père lui en avait parlé. Que la paix et la bénédiction du prophète soient avec lui. Actuellement, il ne restait en Syrie qu'une seule maladie sans guérison. « Bakshish, Effendi, Bakshish, ta fortune, ô riche homme, vient d'Allah, donne au maudit !» Ce cri était un cœur inharmonieux jailli de 5 gorges torturées dont l'angoisse avait brisé ou brûlé les voix. Le ton et les cris étaient inimitables autant que hideux. Le Hadj en frissonna involontairement, bien que la journée fût chaude. Chaque homme éprouve quelques craintes. Pour l'un, c'est l'éclair de la sinue. Pour tel autre, le toucher d'un chien, animal que le prophète d'Allah avait dit impur. Ainsi de suite, le Hadj Imbarak craignait surtout la vue ou le son de voix d'un lépreux. Sa petite maison, avec le beau térébin d'ombrageux de la cour, était malheureusement située aux confins de la ville, dans la région où, précisément, les lépreux pouvaient vaguer en liberté. 5 d'entre eux, 3 femmes et 2 hommes, habillés de bleu sale, étaient apparus on ne sait d'où et lui barraient le chemin. S'il n'avait pas entendu leur voix glapissante, il aurait su leur présence par leurs mains en forme de serre et la marque du lion et les autres stigmates de leur figure grise et ravagée. « Bakshish !» clama encore le cœur farouche, en parfait unisson, grâce à une longue pratique. « Bakshish, ô Effendi, grand et beau comme le cèdre du Liban. Fais l'aumône, non ?»« Partez, impur !» cria Mbarak, lançant au côté du chemin une 12 douzaine de métalliques, la valeur en tout de 10 centimes, et à tant le pas, comme les infortunés se précipitaient et luttaient dans la poussière pour amasser le don jeté sans grâce. Pour le Hadj, cette rencontre assombrit le clair printemps de la journée. Les roses pendaient en masse par-dessus les murs des jardins, et leur parfum était lourd dans l'air chaud. Les oiseaux chantaient, et l'on entendait le murmure des fontaines jaillissant dans des cours invisibles. Des yeux brillants, derrière les mouchards à biais, lui lançaient des regards enflammés, car le Hadj Imbarak était de haute taille et de mine agréable. mais il ne remarquait pas les odeurs, les sons ou les regards. Les lépreux avaient, pour l'instant, fait évanouir les messages ailés du printemps. La peste était pire que la lèpre, et le pacha laissait ses humains en liberté. Ils ne pouvaient entrer dans la ville, ni dans les demeures autres que celles qui leur étaient réservées, la maison Naaman des lépreux. C'était une honte, une disgrâce pour la belle et glorieuse Damas. Il devrait exister une ville ou une colonie spéciale pour les lépreux, telle cette île de Molokai, dont Imbarak avait lu une description dans la brochure du savant Hakim Jamal, ouvrage qui traitait de la lèpre, de ses symptômes et de son histoire. Imbarak abhorrait ce livre, mais il l'avait tellement intéressé qu'il le lut 4 fois avant de le brûler. Il s'arrêta devant une petite porte, dans un long mur bordant la route, l'ouvrit et entra dans la cour de sa maison. Sa demeure entourait les 3 côtés de cette cour, la muraille sur la rue formant le 4e, une demeure rafraîchie par la fontaine et le térébinthe. Le Hadj aimait ce lieu plus que tout autre au monde. Il avait dépensé plus qu'il ne pouvait se le permettre pour son ameublement. Dans son salon d'été, donnant sur la cour, n'avait-il pas installé un meuble exquis importé de Vienne? 3 chaises garnies de peluche écarlate, un canapé de verre satin et une table aux pieds dorés et dessus de marbre. La cour était carrelée et sur le rebord de la fontaine s'étendait une riche carpette d'Amérique. Un tapis d'épais coton avec l'image d'un chien bleu tenant dans sa gueule la bride d'un cheval saumon. C'était un trésor. Le fils d'un missionnaire presbytérien le lui avait donné en échange d'un sale tapis persan, vieux de plusieurs siècles, et usé jusqu'à la corde par 12 de générations de pieds nus. Et comme cadeau, le jeune homme avait même ajouté un pied de vigne, importé parmi d'autres de cette terre sauvage d'Amérique, pour décorer les jardins de la mission. La vigne commençait à reprendre faiblement, mais avec insistance, dans un vase de la cour, au-delà de la fontaine, près du baquet de l'oranger. Imbarak était très fier de cette vigne, car, le jour précédent, elle avait percé ses bourgeons et montré ses premières touffes de feuilles d'un vert tendre. Peu de fidèles pouvaient prétendre posséder une vigne qui venait de l'autre côté du monde. Le Hadj Imbarak était très fier de sa demeure. Il faisait bon y venir après la promenade matinale dans les bazars, et l'heure au café pour y jouir de sa paix et de son calme. Salim, son factotum, accourait de la cuisine pour lui enlever ses babouches poussiéreuses et lui laver les pieds. Mais cette fois, Selim n'accourut pas. Imbarak frappa des mains. L'écho seul lui répondit. Le tapotement des pieds nus manquait à l'harmonie. Le Hadj fronça le sourcil et s'apprêtait à tonner ses reproches. L'absence de Selim était inexcusable. L'heure matinale du marché était passée, aucune excuse n'était possible. Imbarak aspira fortement pour lancer un cri, mais resta bouche bée, aphone. D'un coin éloigné de la demeure partait un chant murmuré en monotone mineur, mais qui avait une signification que le Hadj ne pouvait ignorer. Après un instant de réflexion, il s'élança vers la cuisine d'où partait ce bruit et vit, dans un coin le plus reculé de l'aile des serviteurs, un amas de vêtements qui se balançait de côté à terre. Et de l'amas, une voix chantait, sur un ton mineur lamentable. « Ohé, aïe, Selim était un olivier en bourgeon. Tout le monde avait pour lui de l'affection. Sa mère fut bénie le jour où il naquit. Aïe, Selim est frappé. Dans une heure, sa beauté sera corrompue. »« Selim !» crie Imbarak. « Qu'est-ce ?» Le serviteur cessa son chant lugubre un instant pour lever sa face vers le regard de son maître, et la question qu'allait poser le Hadj mourut sur ses lèvres. Selim vit l'horreur dépeinte sur les traits d'Imbarak et voulut se couvrir la face de ses 2 mains. Les mains et la figure étaient également décolorées et enflées. Imbarak les regardait, frappé d'horreur. Enfin, il retrouva sa voix, une voix bien calme. « Les chevilles » fit-il, « montre ton pied !» Selim dégagea de ses vêtements un pied pantouflé qu'il avança faiblement sous les regards de son maître. La cheville était pourpre et enflée au double de sa taille naturelle. Le Hadj l'examina, puis tourna les yeux avec un frisson. « Oh maître !» implora Selim d'une voix curieusement brisée. « De quelle affliction Azraël m'a-t-il frappé ?»« Ce n'est rien, imbécile !» ricana Imbarak, bravement. « Un peu de chaleur !» De chaleur piquante peut-être, reste sur ton matelas et cesse de geindre comme un chacal galeux. Mais, mon maître, la chaleur piquante n'a jamais... Imbarak n'en entendit pas davantage. Il s'éloigna hautement de la cuisine, mais, une fois hors de vue, il se précipita dans la cour et ne s'arrêta qu'au bord de la fontaine où il s'affaissa sur les dalles, ses genoux ayant subitement faibli. Il resta ainsi longuement accroupi, ne voyant rien. le calme oriental en guerre à mort avec la pauvre nature humaine. Enfin, il parla, en termes formels, alambiqués, s'adressant à la fontaine qui jaillissait sous ses yeux. « La première phase, déclama-t-il d'une voix blanche, est marquée d'une enflure subite de la face, des mains ou des chevilles ou de tous trois. L'enflure s'accompagne de décolorations et de taches rouges. On remarque souvent une ligne sur le front qui devient, avec le temps, ce que l'on appelle techniquement la face léonine. Intense démangeaison et sentiment de brûlure. » Imbarak s'arrêta de réciter la préface du petit livre sur la lèpre. « J'aurais dû, pensa-t-il, lui demander s'il démangeait ou brûlait. Mais à quoi sert? C'est très clair. J'ai observé la ligne rouge, pauvre Selim, et dans ma maison. Les hakims, pour la plupart, croient que c'est contagieux, d'après ce livre, la lèpre. » Le sentiment de dégoût qui s'emparait de lui à la vue d'un lépreux revint au centuple. Dans sa maison. Le serviteur qui le soignait préparait ses repas, veillait à ses vêtements et son lit. Le Hadji Mbarak était un homme juste et brave. Il ne voulait pas jeter le maudit à la rue, comme la loi lui obligeait pour le parquer parmi les pestiférés de la maison Naaman. Non, Selim l'avait servi longtemps et fidèlement, avec le dévouement d'un chien. Et jusqu'à ce qu'on le découvrît, l'affligé serait abrité du monde des impurs, dû la présence du maudit faire de la maison un lieu d'horreur pestilentielle pour Mbarak lui-même. Le Hadj regarda autour de lui les objets qui lui étaient apparus jusqu'alors si merveilleux et qui semblaient maintenant encore teints de la main des Blancs. Par la portière ouverte du salon d'été, il apercevait les chaises de peluche rouge en rang contre le mur, le canapé viennois de satin vert, la table dorée au-dessus de marbre, chose de richesse et de beauté incroyable. Et là, sous la main, cette vigne américaine, dont il avait veillé avec tant de soin la croissance et dont les petites feuilles vertes avaient été le matin même lavées de leur poussière. Au-delà de la fontaine, l'oranger qu'il avait tant soigné et dont les petites fleurs le remplissaient d'un tel orgueil. Ces trésors et une douzaine d'autres avaient fait de la maison du Hadj Mbarak un lieu de délices, et maintenant tout ce qu'il voyait lui rappelait le spectacle d'une figure enflée et d'une ligne rouge marquant un front torturé. Et Selim, qui était si fin cuisinier. Son baklava et son potage aux lentilles étaient des rêves. Il avait inventé ce plat sublime, dont les principaux ingrédients consistaient en chevreau braisé avec lentilles, orge, sucre et deux mesures d'huile d'olive, un mets digne des dieux. Il avait aussi... Mbarak soupira, quand il se surprit à songer à Selim, au temps passé. Jamais le Hadj, depuis 28 ans, n'avait été si malheureux. La tête commençait à lui faire mal, et l'idée qu'il n'aurait pas de bain de pied, ni de pantoufles propres, rentrant à la maison, lui avait donné une sensation brûlante et inconfortable à la cheville. Vivement, il rejeta ses babouches de cuir rouge, et pendant 5 bonnes minutes, il examina attentivement ses pieds nus et ses chevilles d'un regard fixe, comme celui d'un saint homme qui choisirait quelques points de son anatomie pour se concentrer en pieuse méditation. Toutefois, le Hadj ne méditait pas. Son esprit était vide de pensée. Il ne pouvait et ne voulait comprendre ce qu'il voyait. Ses chevilles étaient enflées, indubitablement gonflées, et l'on commençait à y remarquer aussi des taches rouges. Le Hadj leva une main tremblante à son front en sueur, dans un geste de mélodrame, et ce toucher fit passer comme un trait de douleur fulgurante le long du front. Avec des doigts dont les extrémités étaient déjà insensibles, un symptôme certain de la maladie, le Hadj sentit sa figure barbue. Oui, elle était enflée. Et il sentait cet horrible sillon vertical entre les sourcils. Et le dos de ses mains était gonflé. Les endroits qui n'étaient pas gonflés étaient insensibles. Les vrais fidèles ne peuvent pas posséder de miroir, pas même un portrait d'une personne vivante, à moins qu'une marque rouge, peinte au cou, n'implique la mort. Mais, à la rigueur, n'importe quelle chose à surface polie peut servir. À pas lourds, Mbarak se rendit dans son magnifique salon d'été, avec son flamboiement de peluche, de satin et d'or. Sur le marbre de la table, qui brillait, il se pencha. La lumière était ténue. La réflexion embuée de son haleine n'était pas nette, mais cela suffisait. Il vit une figure plus large que la sienne, une figure à barbe avec de grands yeux apeurés et une ligne pourpre au front. Le Hadj ne put endurer de jeter un second regard. Il retourna dans son agréable cour et s'appuya contre le tronc du térébinthe. Il contempla, à travers le feuillage vert sombre, le ciel impassible d'un bleu dur, et il frissonna de nouveau, malgré la sueur nerveuse qui l'inondait. Quand il abaissa ses yeux enflés, il était devenu un oriental. Il en avait fini des manifestations de la peur. Un coup frappé à la porte du jardin le ramena aux réalités. Il avait pris ce matin plusieurs rendez-vous chez lui. Il les avait oubliés. Il avait des affaires importantes à régler, et c'était son dernier jour à vivre. Il en avait pris la résolution sans hésiter. Il ne tenait pas à être honni de ses amis, ni de traîner une misérable existence dans la maison Naaman. On frappa de nouveau, et Imbarak, le Hadj, se souvint que Selim était incapable de répondre. Il sourit. Il rencontrerait encore une fois des humains qui ne le soupçonneraient pas maudit. Il se rendit à sa chambre, où il enleva son turban, posant la main sur son crâne, car c'est une disgrâce pour un fidèle, même dans la solitude, d'avoir la tête nue pendant le jour. Puis il revêtit un kafié, la coiffure à bord frangée des bédouins, qui recouvre la tête et les épaules, et dont on peut aussi voiler la face si on le désire. En arrangeant les plis du kafié, il se hâta d'aller ouvrir. Il se recula de quelques pas dans l'ombre pour laisser passer un gros homme. Le nouveau venu ne vit pas son hôte avant d'avoir refermé la porte. « Que la paix soit avec vous, ô Abou Massas, » dit courtoisement le Hadj. « Avec vous aussi et votre maison, » répartit le visiteur. Et sans souci de l'étiquette, étrangement, le visiteur demanda. « Êtes-vous sans domestique, que vous ouvrez la porte vous-même? Et vous habillez-vous toujours dans votre maison comme si vous partiez en voyage ?»« Soyez indulgent, » répliqua Imbarak. « Je me prépare en effet pour un long voyage, et mon domestique est parti une heure environ avant. Mais le café sera servi, et la pâte de figues et les cigarettes, si vous daignez attendre. »« Non, » protesta Abou Nassar. « Pour celui qui part en voyage, il est permis de ne pas offrir d'aliments. Mes affaires me pressent aussi. Ne perdons pas de temps à ces formules. Imbarak, Hadj, je suis venu ce matin, comme vous m'en avez prié, pour avoir votre réponse. Le lot de terrain dont vous parliez, voulez-vous me le vendre à mon prix ? Sinon je retire mon offre de l'autre jour et à votre prix. » Ricana Imbarak, commettant l'impardonnable crime social de rire tout haut. « Non !» Oh, mais cela lui faisait plaisir de se moquer de ce gros homme plein d'argent qu'il méprisait, et de lui rire vulgairement à la figure. Car Abou Massar, peut-être plus que les lépreux, avait été une épine dans le flanc du Hadj. Il possédait une grande maison, d'immenses terrains tout autour, et ne faisait qu'ennuyer le Hadj depuis des semaines pour qu'il lui vendît, à prix dérisoire, un lot triangulaire de terrain qui touchait à sa maison. La terre ne servait pas à Imbarak. Elle avait peu de valeur, et il avait longtemps désiré la vendre pour un prix équitable. Il avait eu besoin d'argent ces derniers temps pour payer les impôts, et il avait failli accepter l'offre dérisoire d'Abou Massar. Mais que lui faisaient maintenant les impôts, les terrains ou la discussion? N'ayant plus rien à perdre, il se prit du plaisir à bafouer l'homme qu'il détestait. « Oh, Abou Massar, » poursuivit-il, « la terre est à vendre, non pour les 80 medjidiers que vous m'offrez, mais pour 1080. Et par le sabre du prophète et la barbe de mon père, je vous jure que je ne prendrai pas moins. » Il faut savoir que même dans le feu d'un marchandage, un bon musulman ne doit pas prendre en vain un double serment sur le poêle paternel ou le cimetière proverbial. Par suite, Abou Massar ne put s'empêcher d'ouvrir de grands yeux, car il sentait l'indubitable sérieux de la voix de son hôte. Il n'ignorait pas qu'Imbarak n'était pas un homme d'affaires très roué, et qu'il ne savait guère marchander. Le fait qu'il exigeait une somme aussi élevée pour ce terrain, et ce avec un tel sérieux, prêtait à réflexion. Le terrain devait être d'une grande valeur sans doute, à cause de la démolition prochaine de bâtiments officiels, ou bien il y avait peut-être un trésor enfoui dans ce coin. Quelque autre amateur avait offert une forte somme. Dans tous les cas, Abou Massar se disait que le jeu en valait peut-être la chandelle. Il était évident que si quelqu'un pouvait offrir 1080 medjidiers, lui, Abou Massar, ferait peut-être une bonne petite affaire en intervenant pour revendre ensuite le terrain à l'amateur. Ses réflexions le décidèrent. Tirant solennellement son écritoire de corne, et tout en soupirant, il signa une traite pour la somme entière et l'attendit à son hôte. Imbarak regarda le papier sans grand intérêt, et il comprit pour la première fois la vérité de l'adage de Bazar. L'argent est roi, mais la discorde est empereur. Et le gros Abou Massar s'éloigna, roulant sa bedaine par la porte de la cour. « Masalami !» lui cria le Hadj. Abou Massar ne fit que geindre en réponse à l'adieu, car son cœur saignait de la profonde blessure faite à son compte courant. Imbarak regarda sans le voir, pour ainsi dire, le papier qu'il tenait, le plia mécaniquement de ses doigts gourds, qui pouvaient à peine obéir à sa volonté, et mit le pli dans sa ceinture. Pour lui, ce n'était qu'un chiffon sans valeur. Que lui importait? Il se rassit au bord de la fontaine et poursuivit ses méditations. « Quand le soleil touchera le bord de la fontaine, il sera temps, » se promit-il, « et jusque-là... » Un nouveau coup retentit à la porte. Un autre visiteur. C'était l'Arménien qui louait à Imbarak les masures dont le loyer formait le plus clair des revenus du Hadj. Comme il était guère homme d'affaires, il avait confié ses propriétés à l'agent arménien, et ses amis avaient souvent prévenu Imbarak que l'Arménien tirait de son bail des bénéfices considérables. Le Hadj avait souvent réclamé des conditions meilleures, une augmentation de loyer, mais l'Arménien se mettait en rage et déclarait qu'il préférait tout laisser là que de payer une piastre de plus. Or, Imbarak craignait d'avoir le souci de s'occuper de ces choses, ou de tomber dans les mains d'un agent encore moins scrupuleux. Il laissait donc l'Arménien l'exploiter sans vergogne. Ce matin, ce dernier était venu, par convention express, pour déterminer les conditions du renouvellement annuel du bail. Imbarak répliquait mécaniquement aux salutations onctueuses de son agent. Mais soudain, un accès de colère le saisit et il éprouva une sorte de joie farouche de pouvoir se dégager de l'emprise de son tyran. « Brédosian, fit-il nonchalamment, comme ils s'assirent, je ne vous offre ni café, ni sucrerie ou tabac, car je ne vous reçois pas comme invité. Je vous chasse comme agent infidèle. » L'Arménien sauta sur ses pieds, ses bras gesticulant comme des ailes de moulin. « Aucun homme qui m'insulte ne saurait survivre, cria-t-il. Je suis un honnête homme. Je... Partez, Imchi, répliqua vertement le Hadj. Vous êtes un voleur. Vous ne serez plus mon agent. On vous a menti à mon sujet. Non. Personne ne t'appelait honnête. Mes affaires à partir d'aujourd'hui seront entre d'autres mains, et plus jamais on ne me volera. Effendi, Imchi. » L'Arménien était aussi bon juge d'homme que le gros Abou Massar. Il comprit très bien que l'influence qu'il exerçait sur sa victime était quelque peu diminuée. Il se prostra sur les dalles devant les chevilles enflées du Hadj. « Je l'avoue, murmura-t-il, je vous ai volé, oh Effendi, pardonnez-moi, laissez-moi réparer le tort causé. »« Réparer ?» ricana Imbarak, qui n'avait plus besoin de restitution en ce monde. « Oui, Effendi, réparer, ne me congédiez pas, je serai votre honnête agent, je vous paierai 10% de plus de loyer. »« 10% ?» répéta Imbarak dédaigneusement, espérant, au fond du cœur, que l'Arménien prendrait le ton rogue de sa voix pour de l'indignation. « Partez, 15 !» 100% demanda froidement le Hadj, et une garantie écrite que cette augmentation viendra de vos bénéfices illicites et ne causera pas de charges plus élevées à mes locataires. En vain, l'Arménien gémit et pleura et se jeta de la poussière imaginaire dans sa barbe imaginaire aussi. Imbarak s'obstina dans une profonde indifférence, et finalement, Bedrosian sortit de sa ceinture le matériel nécessaire pour écrire, et en pleurant, se mit à écrire le nouveau bail. J'ai tout de même enrichi mes héritiers aujourd'hui, songeait le Hadj, comme la porte de la cour se refermait derrière l'Arménien. J'aurais voulu avoir un fils qui en profita plutôt que des cousins. Il y avait encore un visiteur dont Imbarak attendait la venue en ce jour fatal. Et dans une heure, sinon moins, le soleil toucherait le bord de la fontaine. Imbarak se mit donc à faire ses préparatifs. Il se rendit dans la chambre et prit à la panoplie son pistolet. C'était une arme à silex, avec un canon curieusement gravé d'une prière à Allah, damasquiné en argent. De ses doigts gourds et enflés, il examina le silex, nettoya la lumière et mit de la poudre fraîche dans le barillet. Un coup retentit à la porte comme il venait de terminer cette tâche. Il posa l'arme et se glissa vers la porte, péniblement, pour laisser entrer le visiteur. « Oh, Najib Asraoul, » dit-il en accueillant chaleureusement son visiteur, « que vos jours se prolongent et que le rossignol encore non couvé chante sur votre tombe. » Le visiteur, hommagé, portant une grande barbe, répondit avec formalisme « Que la bénédiction du miséricordieux soit sur vous et sur votre maison. Je viens vous mander de tristes nouvelles. » « Il ne peut en être de bien sombre en ce jour fatal, » répartit gaiement le Hadj, « et si vos nouvelles étaient aussi enténébrées que la nuit, le soleil de votre présence suffirait à les rendre claires comme le jour. Je m'excuse de mon habit et de ne pas vous offrir de collation, car ma maison est en ordre et mon serviteur m'a précédé dans un long voyage » que je vais entreprendre lorsque le soleil sera couché. C'est donc pour le mieux, interposa Basraoul, car je viens vous mander de tristes nouvelles. Si le visiteur était venu la veille, le monde aurait semblé amer pour le Hadj, car il savait ce que ces tristes nouvelles devaient être. Mais maintenant, que lui importait? C'était bien absurde de le dire aujourd'hui, mais enfin, la vérité nous contraint d'observer que le Hadj Imbarak était amoureux. Il aimait une fille aux cheveux noirs, aux yeux trop grands pour sa figure et aux mains aussi petites et blanches que des fleurs de lotus. Il l'avait vue deux fois chez son père, une fois par accident, sans son voile. Ils s'étaient regardés tous deux, profondément, dans les yeux. Et il y avait lu bien des choses. Imbarak avait demandé à Najib Basraoul, son père, la main de la jeune fille. Il n'avait pas de femme, bien que le prophète autorisât ses fidèles à en posséder quatre. Et il aimait la jeune fille de l'imam, dont la ceinture était si fine qu'il aurait pu la tenir entre ses mains jointes. L'imam Basraoul n'avait pas refusé la main de sa fille. Il avait dit qu'il réfléchirait, ce qui en Syrie signifiait que le mariage était devenu une question d'argent, car là-bas, le père reçoit un douaire en échange de sa fille au lieu de lui en donner un. Comme la fille était belle et que Imbarak était très amoureux, l'imam avait demandé 800 medjidjés. Imbarak ne pouvait se permettre une telle dépense en argent comptant. Il avait donc en vue d'hypothéquer sa jolie petite maison et même de vendre un terrain adjacent à Boumassar au meilleur prix possible. Le souvenir de cette folie terrestre fit presque sourire ses lèvres raidies. « Quelles sont ces tristes nouvelles, ô Najib ? » demanda-t-il. « Prenez courage, » commença l'imam. « Un autre m'a offert 1000 medjidjés. Je sais que vous ne pouvez m'en donner autant, et cela me peine, car vous êtes un homme juste et jeune. » Et j'aurais aimé voir ma fille chez vous, mais je suis pauvre et je me fais vieux. Je n'ai donc pas le droit de... 1000 medjidjés, répéta le Hadj avec indifférence. Qui vous offre cela? Abou Massar, votre voisin. Il est vieux, mais... Abou Massar, répliqua le Hadj. Son indifférence étant dissipée. Est-ce ainsi? Si vous pouvez me donner autant, soupira l'imam, je préférais la jeunesse à la vieillesse, mais je ne suis qu'un pauvre homme. « Les 1000 medjidjés sont-ils le dernier prix que veut y mettre Abou Massar ?» demanda Imbarak. « Frère, reprocha gravement Basraoul, je ne parle pas du prix d'un cheval, mais du douaire d'une fille aimée. Il n'y a qu'un prix. »« Alors, » bâilla Imbarak en sortant de sa ceinture la traite pliée, « c'est moi et non Abou Massar qui paierai. Voici vos 1000 medjidjés, avec 80 de plus comme bakchiche. » La grise figure de l'imam rougit à cette insulte. La vue de la traite négociable fut un argument sonnant et frappant. « C'est bien, » fit-il avec raideur. « Sur le double et le triple serment ?»« Sur les deux serments, qui ne peuvent être brisés. »« Prenez le douaire, alors, » dit Imbarak. « Et le mariage ?» demanda le vieillard tout éberlué, tout en caressant amoureusement la traite. « Selon qu'en décidera l'époux ?» fut la peu aimable réponse. « Et si je meurs entre-temps, elle est ma veuve, ô imam, d'après la loi. Ma veuve, une femme libre. » Et l'argent du douaire est à elle. Oh, mon fils, vous n'avez pas besoin de me rappeler la loi, ni de me rappeler mon serment. Je ne vous retiens plus pour votre voyage. L'imam partit avec plus de formalisme qu'à son arrivée. Le soleil était à une largeur de main du bord de la fontaine. J'ai fait du bon travail aujourd'hui, musa Imbarak, comme il se rendait dans sa chambre y prendre son pistolet. Ali a bien dit, celui qui n'a rien à perdre ne peut que gagner. Une femme que j'aime, son douaire que je n'avais aucun espoir de me procurer, décharge pleine et entière de mon mépris pour ce bandit d'Abou Massar. Je double aussi mes revenus, l'humiliation de Bedrosian et le droit d'insulter l'imam, qui voulait vendre sa fille au plus offrant. Une bonne journée, mais c'est la dernière. Il leva le pistolet de ses doigts engourdis pour le porter jusqu'à son front, mais il l'abaissa. Le froid de l'acier sur sa peau enflée l'avait saisi. Pour trouver sa fermeté, il étendit une main en courbant les doigts enflés en forme de serre et cria d'une voix brisée et plaintive comme un lépreux « Bakchiche, Effendi, faites l'aumône au nom d'Allah, Bakchiche !» Il frissonna la pensée évoquée par cette phrase atroce et d'une main plus ferme, il porta le pistolet à son crâne. Soudain, sans autre cérémonie, la porte de la couvre s'ouvrit violemment, faisant envoler bruyamment toute une troupe de pigeons qui étaient posés au bord de la fontaine. Imbarak, le Hadj, passa le pistolet dans le devant de sa robe et avec un prodigieux froncement de sourcils, il se dressa pour châtier l'intrus aussi mal élevé. Un homme en kaki, portant un casque de liège, marchait vivement à travers la cour. À sa vue, l'ayant reconnu, Imbarak se tourna et voulut fuir. Car c'était El Hakim O'Donnell, le médecin de la mission, un homme de grande culture médicale pour un infidèle. Un homme qui, d'un regard, lirait son secret et qui ne manquerait pas de mettre les autorités au courant. Une vision de la maison Naman lui monta dans l'esprit au point de le rendre malade de dégoût, et Imbarak fouilla nerveusement sa ceinture pour prendre le pistolet. Trop tard, O'Donnell était sur lui. Il lui lança un vif regard, écarta d'un geste les plis du cafier et scruta les traits anxieux du Hadj. « C'est précisément ce que je pensais, » annonça-t-il en arabe de barbare. « Je suis venu vous prévenir. »«
Cela n'est pas, » gémit Mbarak d'une voix curieusement craquée.
« Ce n'est pas la lèpre, c'est... »«
La lèpre ?»
répéta le médecin américain étonné. « Qu'est-ce qui vous a raconté cela ?»«
Le premier imbécile venu peut voir que cela n'est pas la lèpre. » »«
Mais c'est un cas très prononcé d'empoisonnement par le lierre. »«
De quoi ? Quoi ?»«
Nous nous sommes aperçus ce matin quand la première des vignes amenées d'Amérique a montré ses feuilles. » Nous les avons arrachées. Ce sont des vignes vierges et vénéneuses. Mon fils m'a dit qu'il vous en avait donné une. Je suis donc venu vous prévenir.
Je ne suis pas un lépreux,
balbutia Mbarak, obstinément buté à ne pas comprendre.
Je vous dis que je ne suis pas lépreux. Ce n'est pas la lèpre, c'est...
La lèpre. Pourquoi insistez-vous sur la lèpre? L'empoisonnement par le lierre sauvage n'est pas plus semblable à la lèpre que la craie ressemble au marbre.
Mais comment vous expliquer?
Le lierre empoisonné est une plante sauvage. Si vous la touchez, elle produit des démangeaisons vénéneuses. Même quand on ne la touche pas, elle provoque des irritations, une enflure et une démangeaison brûlante, comme ce que vous avez par exemple à la figure et aux mains. Le médecin expliqua soigneusement à son interlocuteur, bouche bée, la nature et les effets du lierre sauvage, et enfin, le Hadj se mit à comprendre. Quand il fut bien persuadé que le Hakim ne plaisantait pas, il balbutia.
Est-ce que cela fait aussi briser la voix et enfler les doigts?
C'est bien vrai, n'est-ce pas?
Mais non.
Répondit le médecin, pas que je sache. Vos doigts sont-ils gourds? Votre voix ne me semble pas brisée.
Quand je suis arrivé, peut-être, votre voix était...
Quoi, je ne sais, mais maintenant...
Et mes doigts ne sont pas engourdis?
Frémit Mbarak, émerveillé.
Je sais, Hakimo, je sais.
Avez-vous jamais entendu le conte de Sidi Ben Hassan, le juste, assis à la porte de la cité à l'heure d'Azim? Aucun Syrien ne vous a-t-il raconté cette histoire?
Non,
répondit en riant O'Donnell. Et comme il avait vécu longtemps en Syrie, il savait éviter les contes syriens quand on en parlait.
« Et je n'ai pas le temps aujourd'hui, il faut que je rentre pour déjeuner. »
Puis, sérieusement,
« Mais dites-moi, vous feriez bien d'arracher cette plante vénéneuse et la brûler immédiatement. »«
La brûler ?» crie Mbarak, plein d'horreur. « La brûler, Hakim ? Cette plante, qui vient de me donner des fruits d'or, la richesse, une épouse et la chance d'écraser ceux qui autrefois me méprisaient, la brûler, c'est un trésor. »
Avec résolution, il se rendit dans la cuisine, en tira Selim prostré et larmoyant, lui donnant des coups de pied pour le faire avancer.
« Tu n'es pas malade, Selim, » le rassura-t-il gaiement. « Tu es bien mieux que tu n'aies jamais rêvé de l'être. Et tu as trop pleuré pour une journée ensoleillée. Prends cette vigne superbe et porte-la tendrement, avec mes compliments et mon amour fraternel, comme un cadeau librement donné. Un beau cadeau, tu m'entends? Un gage d'amour fraternel.
« Mais, » murmura Selim, encore peu rassuré, « où dois-je la porter, maître?
Avec tous ces messages si aimables?
Où?
Mais à la maison de mon camarade et de mon plus cher frère.
Abou Massar? Quel autre de mes amis est digne d'un pareil cadeau? D'ailleurs, je crois que je dois quelques réparations à ce cher et digne homme. »
Ainsi s'achève La vigne aux fruits d'or par Albert Payson Terune.